Radio Prague, les informations.
Les églises tchèques acceptent le projet de restitution de leurs biens. 10% des homosexuels et bisexuels tchèques ont été maltraités à cause de leur orientation. La Thaïlande lève l'obligation de visa pour les tchèques. Les églises tchèques acceptent le projet de restitution et de compensation de leurs biens confisqués, projet qui leur a été présenté ce jeudi par une commission gouvernementale. Les dignitaires des églises envisagent cependant encore de rouvrir la question du calendrier de la restitution. Une déclaration de l'archevêque de Prague et primat de l'église catholique tchèque, Dominik Duka. Selon le projet, l'État devrait restituer aux églises 56% de leurs biens, leur verser aussi une compensation de 59 milliards de couronnes, quelque 2,36 milliards d'euros. Les paiements de cette somme s'échelonneraient sur une période de 30 ans. 10% des gays, des lesbiennes et des bisexuels des deux sexes en République tchèque se sont vus agresser à cause de leur orientation sexuelle. Certains ont subi les attaques de ce genre à plusieurs reprises. La majorité de ces personnes n'ont pas signalé ces attaques à la police. Tels sont les résultats d'un sondage présenté ce jeudi à Prague dans le cadre du Festival des minorités sexuelles Gay Pride par Olga Pechova de l'Université Palatsky de la ville d'Olomouc. 496 personnes de la tranche d'âge entre 16 et 60 ans ont pris part à ce sondage. Le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, ne renoncera pas au soutien qu'il apporte au Festival des minorités sexuelles Gay Pride. Le maire a réagi ainsi devant les journalistes aux appels de plusieurs personnalités, l'exhortant à revoir son attitude. Parmi ces personnalités, il y a l'archevêque de Prague, Dominik Duka, qui lui a écrit en début de semaine une lettre dans laquelle il lui demande de réfléchir encore une fois au soutien qu'il a apporté à la Gay Pride. À partir de ce jeudi, les ressortissants tchèques peuvent voyager sans visa en Thaïlande. L'obligation de visa a été supprimée pour les séjours de moins de 30 jours. Au-delà de cette limite, l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques reste toujours en vigueur. Une information publiée sur son site internet par l'ambassade de Thaïlande de Prague. Dans son projet de réforme de la santé publique, le Parti social-démocrate tchèque, ČSSD, propose de réduire le nombre de caisses d'assurance maladie, de créer un réseau d'hôpitaux publics non lucratifs et de supprimer les limites du paiement d'assurance maladie. Le ČSSD propose de supprimer aussi les paiements de régulation pour les soins médicaux, à l'exception de ceux qui sont exigés dans les hôpitaux. Ce projet de réforme a été présenté par le ČSSD ce jeudi à la presse. Météo. Ce jeudi fête de toutes les Zuzana, Suzanne, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est variable. Les températures se situent entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel tchèque sera presque clair. Les températures diurnes s'échelonneront de 21 à 25 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter. Et je cède le micro maintenant à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobriden, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information. Et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au cours des 20 prochaines minutes, il sera d'abord question des prénoms les plus donnés par les parents tchèques. Sans surprise, Teresa et Jan, ou Thérèse et Jean si vous préférez, restent les noms préférés. Il sera aussi question de football. La République tchèque s'est largement inclinée en Norvège mercredi, inquiétant à 3 semaines du déplacement sans doute décisif en Écosse dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2012. Et puis la rubrique du jour sera consacrée au tourisme et à la découverte du plus ancien jardin botanique en République tchèque. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Depuis 13 ans déjà, Teresa est le prénom le plus fréquemment donné aux filles en République tchèque. En 2010, pas de surprise, Tereska, le diminutif, est toujours en haut du classement. Parmi les garçons, le prénom, Jan est aussi très populaire depuis plusieurs générations. Le Český statistický úřad, ou si vous préférez l'Office national de la statistique, a publié la semaine dernière le palmarès des prénoms les plus donnés aux enfants tchèques ce jeudi. Plus de détails avec Hanka Niemeczkova.
Dans les années à venir, les écoles maternelles seront toujours remplies de fillettes appelées Teresa, Eliska et Adela, et des petits garçons prénommés Jan, Jakub ou Tomáš. Ce sont les prénoms les plus fréquents des enfants tchèques nés l'année dernière. Les statistiques ne sont guère surprenantes. Les trois premiers prénoms des garçons sont les mêmes depuis au moins 10 ans. Pour les filles, Teresa est toujours la championne incontestée. Anna ou Natalie, qui la suivaient surtout au début du millénaire, sont aussi toujours parmi les 5 premières. Les autres prénoms du palmarès sont aussi assez traditionnels. Mais grâce aux parents étrangers ou à des parents qui ne redoutent pas le changement, on trouve aussi des bébés portant un prénom exotique tel que Fatia, Cristiano ou Zoltan. Eva Cortanova, chef de ce projet statistique, identifie les principaux groupes des prénoms exotiques.
Parmi les prénoms étrangers, ce sont les prénoms russes et ukrainiens qui sont fréquents. On trouve aussi pas mal de prénoms slovaques ou de l'ex-Yougoslavie. Les prénoms vietnamiens sont représentés en grand nombre et des prénoms français apparaissent aussi.
Cette statistique a identifié un autre phénomène assez intéressant. Les garçons tchèques héritent souvent du prénom de leur père. Zdeněk, Ladislav ou Jiří figurent parmi les prénoms les plus hérités. Les filles sont moins touchées par la tradition familiale. Eva Cortanova nous explique pourquoi.
Je pense que le fait de passer le prénom du père au fils, même depuis plusieurs générations, est une pratique assez enracinée dans la société tchèque. En ce qui concerne les filles, j'ai l'impression que c'est parfois le prénom de leur grand-mère, voire l'arrière-grand-mère qui leur est donné. Voilà pourquoi on observe ces derniers temps l'usage croissant d'anciens prénoms tchèques, tels que Rozárka, Viktorie, etc.
Cela ne veut pas dire que les parents tchèques ne sont pas prêts à expérimenter. Au contraire, dans les années 90, les telenovelas sud-américains ont causé un petit boom des prénoms hispaniques tels que Manuela, Esmeralda ou José Armando. Même Eva Cortanova est parfois surprise par la créativité des parents tchèques.
Ce qui m'a étonné personnellement, c'est la tchéquisation des prénoms étrangers, comme Chanel, écrit avec un che tchèque au lieu de ch. Les parents veulent donner un prénom étranger, mais la transcription est tchèque. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas la forme correcte du prénom ou s'ils veulent intentionnellement donner une forme tchèque au prénom. Cela me paraît un peu curieux.
Sinon, il paraît que les familles tchèques décident du prénom en fonction de sa signification ou de la tradition familiale. Les phénomènes socioculturels n'ont pas trop d'influence. Par exemple, à Plzeň, la ville du club champion tchèque de foot, Viktoria Plzeň, les statistiques montrent qu'il n'y a pas plus de filles prénommées Viktorka par rapport au reste de la République tchèque.
On passe au sport. L'équipe de République tchèque de football disputait mercredi à Oslo contre la Norvège son dernier match de préparation avant son déplacement crucial en Écosse le 3 septembre dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2012. Largement battu 3-0 et inexistant dans le jeu, les partenaires de Petr Cech et de Tomáš Rosický ont cependant du souci à se faire. Avant le match, le sélectionneur Michal Bilek avait déclaré que les 26 places qui séparent son équipe 38e et la Norvège 12e au classement de la FIFA ne reflétaient pas la réalité. Au coup de sifflet final, difficile de ne pas donner raison au sélectionneur. L'écart, le gouffre même au vu du match qui existe entre les deux pays est bien plus important encore. 3 buts encaissés, une seule et unique occasion en 90 minutes, une défense fébrile, voire passoire, un milieu de terrain sans imagination malgré la bonne volonté de Rosický et des attaquants rarement servis dans de bonnes conditions. Tel est le bilan de la large défaite concédée à Oslo, auquel il convient encore d'ajouter, ce qui est encore sans doute plus gênant, le sentiment, du moins vu de l'extérieur, de l'absence d'agressivité et d'esprit de révolte parmi les joueurs. Comme l'a concédé le gardien Petr Cech, il n'y a absolument rien à retirer de ce match.
Je pense que l'analyse est très simple. Rien ne nous a réussi ce soir. Je ne vois qu'un point positif, c'est que ce match n'était pas un match de qualification. Rien de ce que nous nous étions dit avant le match, rien de ce que nous avions mis en place à les préparer n'a fonctionné. C'est le genre de match où vous pensez jouer d'une certaine façon, mais où c'est tout le contraire qui se passe sur le terrain.
Le sentiment du gardien tchèque était également partagé par le sélectionneur Michal Bilek, très déçu, et c'est un euphémisme de la prestation de son équipe.
Nous avons fait un très mauvais match. Notre adversaire a été meilleur dès l'entame, beaucoup plus incisif et précis. Nous n'avons pas été solides défensivement et on a perdu beaucoup trop de duels pour pouvoir rivaliser. Et lorsque nous avons eu le ballon, nous l'avons perdu beaucoup trop vite, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement eu aucune combinaison de notre part. Du coup, nous n'avons jamais inquiété la défense adverse et c'est donc une énorme déception.
Menés 1 à 0 à la mi-temps, les Tchèques, incapables de réagir après le repos, ont encaissé deux autres buts dans les 20 dernières minutes. Dans trois semaines pourtant, ils seront opposés en Écosse, un adversaire au profil équivalent à celui de la Norvège, ne serait-ce qu'au niveau de l'engagement physique. Un domaine dans lequel les Tchèques ont grandement péché mercredi, comme le reconnaissait leur capitaine Tomáš Rosický.
La seule chose à retenir, c'est ce que nous savions déjà, à savoir que si nous ne sommes pas au moins aussi agressifs et combatifs que nos adversaires, eh bien nous n'avons aucune chance, comme aujourd'hui. Ce sera la même chose en Écosse, même si là-bas le match sera un peu différent. Les Écossais, à la différence des Norvégiens, seront obligés d'attaquer et ne pourront pas nous attendre. Mais cela ne change rien au fait que si nous ne nous mettons pas au niveau des Écossais dans la combativité, comme nous n'avons pas su le faire aujourd'hui contre les Norvégiens, nous aurons de gros, gros problèmes en Écosse.
Mais avant de penser à ce déplacement en Écosse, sans doute décisif dans la lutte pour la deuxième place du groupe I, synonyme de barrage pour le prochain championnat d'Europe, la presse tchèque se demande si le sélectionneur Michal Bilek est toujours l'homme de la situation. Malgré son bilan négatif à la tête de l'équipe depuis son entrée en fonction il y a 2 ans, Michal Bilek estime que oui.
La mission qui m'a été confiée lors de ma nomination était de nous qualifier pour le championnat d'Europe. Pour l'instant, nous sommes à la deuxième place de notre groupe et avec un certain avantage par rapport à l'Écosse et à la Lituanie, nos principaux concurrents. On ne peut pas dire non plus que nous ayons mal joué depuis le début des éliminatoires. C'est pourquoi je ne vois pas de raison de démissionner.
Quelle que soit l'avis du sélectionneur, une chose semble cependant évidente aujourd'hui. Si la République tchèque parvient finalement à se qualifier pour l'Euro 2012, c'est essentiellement parce qu'elle aura affronté des adversaires plus faibles qu'elle. Mais après le match en Norvège, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait mieux pas que la République tchèque ne se qualifie pas et reste à la maison. Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Comme toutes les deux semaines, on retrouve maintenant la rubrique touristique, une rubrique touristique dans laquelle Magdalena Rosinkova vous emmène à la découverte du plus ancien jardin botanique de République tchèque. Ce jardin botanique a été ouvert en 1895 à Liberec, en Bohême du Nord, et accueille chaque année pas moins de 200 000 visiteurs. Ses collections végétales comptent quelque 8 500 espèces en provenance du monde entier.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Bonjour, nous sommes dans le jardin des plantes de Liberec, une des principales villes de République tchèque au patrimoine historique et industriel, ville à la population majoritairement allemande jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est située en Bohême du Nord, au pied des monts de Jizerské hory. Ce jardin des plantes est donc le plus ancien dans le pays, mais surtout il est réputé pour son complexe de 9 serres modernes ouvertes au public en 2000. Étalées sur une superficie de 3000 m², elles abritent plus de 6000 espèces de plantes tropicales étagées sur 2 niveaux, ainsi qu'une exposition des fossiles, des aquariums et des volières avec des oiseaux exotiques. Les expositions dans les serres invitent à des voyages différents qui nous font découvrir la flore des forêts tropicales humides, de la jungle asiatique et de l'Afrique équatoriale. Un des pavillons présente la forêt de l'air primaire. D'autres sont dédiés aux cactus, aux plantes carnivores, à la végétation des milieux arides ou encore aux orchidées. Le directeur du Jardin des Plantes, Miloslav Studnička, nous accueille dans la serre d'Australie. Terre rouge, formation rocheuse de granit, arbustes, dont certains partiellement brûlés, oiseaux. L'ambiance du bush australien est instaurée. Miloslav Studnička.
Ça, c'est une curiosité. La plus grande plante de la famille des orties au monde, la Dendrocnide moroïde. C'est une plante dangereuse. Voilà pourquoi elle est placée loin du parcours de sa visite. Sa piqûre doit être soignée à l'hôpital. Et nous voici au pavillon Neotropis, au cœur d'une forêt tropicale humide de l'Amérique. En été, cette bassine est entièrement occupée par l'orchidée géante, la Victoria amazonica. C'est un peu surprenant vu ses dimensions, mais il s'agit d'une plante annuelle. Maintenant, en février, nous allons bientôt la semer. Presque chaque plante ici a son histoire. Par exemple, ce yam mexicain, que j'ai d'ailleurs vu en pleine nature au sud du Mexique, il est à l'origine de la contraception. Dans cette plante, on a découvert pour la première fois que l'on pouvait tirer des hormones d'une substance végétale. Et grâce à cet arbre-là, la Manilcara zapota, on connaît le chewing-gum. Pour le fabriquer, on utilise toujours le latex sécrété par cet arbre.
Pour obtenir de nouvelles acquisitions, le jardin de Liberec procède régulièrement à un échange de graines entre différents jardins botaniques du monde. À part la Victoria amazonia, Liberec possède d'autres végétaux rares et précieux, notamment le palmier liège Microcicas calocoma, une espèce endémique de Cuba menacée d'extinction. L'exemplaire qui se trouve à Liberec est le seul qui existe en Europe. Ou encore une autre espèce menacée, Manie d'Afrocarpus, un arbre conifère indigène qui ne pousse que sur l'île de Sao Tomé dans le golfe de Guinée. Miloslav Studnička.
Nous avons aussi plusieurs plantes précieuses du point de vue historique, par exemple les camélias qui se classent parmi les plus anciens en Europe, ou bien une espèce mexicaine, Erythrina, qui doit avoir au moins 200 ans. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée ici, je pense que c'est une confiscation d'après-guerre. Elle est superbe. Chaque année, elle émerveille les visiteurs par sa longue floraison rouge vif. Il ne faut pas oublier que nos collections abritent le bonsaï le plus vieux en Europe, qui doit avoir plus de 200 ans, nous l'exposons une fois par an.
L'histoire du Jardin des Plantes de Liberec commence en 1893, lorsqu'une association locale des Amis de la Nature, qui avait à l'époque un nom allemand, achète le terrain de l'actuel jardin.
Le jardin a ouvert 2 ans plus tard. Ce n'était pas un jardin botanique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de serre, uniquement des plantes ligneuses. C'était en fait un lieu de production horticole pour Liberec. À l'époque, ces jardins étaient populaires. Ils faisaient partie de la vie culturelle de la ville. La première serre a été construite dans l'entre-deux-guerres. Elle abritait surtout des palmiers et des plantes que l'on cultivait dans les orangeries de château et dans les jardins d'hiver. Cette histoire, nous l'évoquons dans notre pavillon numéro 1, où nous montrons les plantes oubliées, les camélias les plus anciens en Europe. Ce pavillon est une réminiscence de cette première serre de notre jardin.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le jardin botanique de Liberec est dévasté. Entre 1956 et 1980, au total 11 serres d'exposition et 4 serres de cultivation sont édifiées, non pas par des spécialistes, mais par des volontaires qui manquaient de matériel de qualité. Depuis les années 50, le jardin occupe une surface de 2 hectares. Miloslav Studnička.
Au fil des années, les collections du jardin se sont agrandies. Mais là encore, c'était une tâche très difficile. Aujourd'hui, le monde nous est grand ouvert, mais à l'époque, quand les botanistes ne pouvaient voyager qu'en RDA, c'était un autre style de travail. Nos voisins, en Allemagne de l'Est, travaillaient dans de meilleures conditions, car ce pays avait une longue tradition de jardin botanique. Le premier directeur de notre jardin des plantes après la guerre, Pavel Smrz, était en fait un excellent manager et diplomate aussi. Il a eu de bonnes relations avec les botanistes allemands et grâce à lui, le jardin a acquis de nombreuses plantes et a pu fonder des collections de qualité.
A vznikly velmi solidní sbírky. En 1970, le directeur Pavel Smrš est révoqué pour des raisons politiques. Jusqu'à la révolution de velours, la gestion du jardin est entièrement contrôlée par les autorités communistes et sa réputation de centre de recherche et de diffusion de connaissances se dégrade. Au début des années 90, le jardin des plantes reprend vie, avec notamment l'aménagement du jardin alpin et du parc. Parallèlement, on démonte les anciennes serres délabrées et on construit un complexe moderne composé de 9 bâtiments de verre et de fer juxtaposés à la hauteur différente, bâtiments qui rappellent une structure cellulaire et cristalline. Un concept inventé par l'architecte Pavel Vaniček et le directeur Studnička.
Cette structure serrée est assez particulière. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'atypique. On a construit des serres de ce type à Francfort, mais là-bas, les bâtiments forment plutôt une étoile, ce qui n'est pas trop avantageux. Quand les constructions sont serrées l'une contre l'autre, cela assure une isolation thermique et donc des économies d'énergie. Nos serres demeurent très modernes. À titre d'exemple, nous avons accueilli récemment les botanistes du jardin botanique de Leiden, spécialisés dans la flore de l'Asie tropicale et très réputés à l'échelle européenne. Ils veulent moderniser leurs serres et sont venus voir comment cela fonctionnait chez nous.
Le jardin des plantes de Liberec a encore une vocation particulière. Depuis 2003, il récupère des plantes illégalement importées dans le pays et confisquées à la douane. Quel est actuellement le nombre de ces importations illégales vers la République tchèque, Miloslav Studnička?
Il s'agit de cas, je dirais, sporadiques. Les gens ont compris que le risque était trop grand. Seuls les amateurs de cactus continuent à dévaster la nature. Mais les plantes qui leur sont confisquées n'ont plus la même valeur, du fait qu'ils ne pourront plus être replantés dans la nature. Quand elles arrivent chez nous, nous les soignons, ce qui est assez coûteux, et nous essayons de les habituer à un autre milieu. C'est difficile. Les plantes qui quittent leur microclimat supportent mal le trajet et les conditions artificielles qu'on leur impose. Parfois, elles mettent 2 ans pour s'acclimatiser. Après une procédure judiciaire, une nouvelle question s'impose. Que faire avec la plante? Les jardins botaniques ont peu de place et ne sont pas forcément intéressés par une caisse de cactus de Bolivie. Nous cherchons quand même à les placer quelque part. Il arrive aussi que ces plantes restent chez nous et enrichissent nos collections. Personnellement, je pense qu'il serait bien de les faire revenir grâce aux scientifiques dans leur milieu naturel, aux frais des importateurs. Cela leur reviendrait beaucoup plus cher que les amendes qu'on leur fait payer.
Le jardin des plantes de Liberec se trouve à proximité du centre-ville, à quelques pas du zoo de Liberec. Il est ouvert tous les jours de 8h à 16h en hiver et de 8h à 18h en été. Plus de détails sur son site internet en version tchèque et anglaise, www.botaneliberec.cz.
Voilà, c'est la fin du bloc Actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention. N'oubliez pas également que vous pouvez nous réécouter ou nous lire. Pour cela, c'est sur le www.radio.cz. Sinon, rendez-vous dès demain. À très bientôt donc. Ahoy.